fesses. On va reprendre donc trois lignes avant la trois lignes avant la fin de la page. Vegami she'en midat, d'accord? Vegami she'en midat ahava shebenafsho. Donc juste pour résumer, de quoi on avait parlé. On a expliqué, donc tout d'abord, c'est pour vous dire que Bezrat Hashem, la semaine prochaine, sera le dernier cours de la saison. Qu'on aura un résumé sur le chapitre 41, 42, 43.
C'est le final.
Et que, après le résumé, qui va durer une petite demi-heure, 35 minutes, on va commander la semaine prochaine, si tu veux, pizza et sushi. Voilà. Ah oui, c'est la finale, c'est le sioum.
C'est arrivé trop tôt. Hein. Tu peux revenir, hein, si on sache.
Voilà. Donc là, aujourd'hui, normalement, Bezrat Hashem, on va finir le chapitre 43. Et peut-être qu'on va démarrer aussi un peu le chapitre 44. Obligé, je crois pas qu'on aura le temps. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué dans le chapitre 43? Où on en est? On a expliqué que de la même manière qu'il y avait deux catégories de ira ila, deux catégories de crainte. Il y avait la ira tata et la ira ila'a. Il y avait, on a expliqué qu'il y a la crainte d'en bas et la crainte d'en haut. En gros. Quand on a expliqué que qui dit crainte, ça veut dire annulation à Kadosh Baruch Hu. Ce que j'entends par annulation à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire réaliser qu'on n'a aucune existence, qu'on vaut rien par rapport à Kadosh Baruch Hu. On n'a pas d'existence personnelle. Ça, c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on n'existe pas. On existe. Si la Torah dit Bereshit Bara Elohim, ça veut dire qu'on a été créé. Mais ça voulait dire, on a expliqué que plus on avance dans la crainte à Kadosh Baruch Hu, et plus on réalise qu'on ne vaut rien par rapport à Kadosh Baruch Hu. En fait, pourquoi une personne fait des averot? Alors qu'est-ce qui pousse la personne à faire d'Averot? Parce que je me dis, même si Dieu il veut pas, mais moi je suis quelque chose. Donc plus on avance dans la Yirat Hashem, plus on avance dans la crainte de Dieu, et plus ça nous rend, c'est le passe-partout, ça nous donne la possibilité de ne pas fauter. Donc on a expliqué qu'il y avait Iratata et Iraïla. Il y a la crainte d'en bas, ça c'est la crainte qu'on a tous. C'est-à-dire quoi la crainte d'en bas? Ça veut dire ne pas faire une Avera, ou bien parce que j'ai peur de la punition, ou bien parce que je me dis que le monde est tellement beau que c'est dommage de le gâcher avec mes avérotes. Comment avec mes avérotes? Qui je suis pour gâcher ce monde par mes avérotes? Ça, c'était la iratata. Ça, c'était la crainte de bas niveau. Ce serait déjà bien qu'on arrive à cette crainte, mais on appelle, dans le Zohar, en tout cas, il appelle ça la crainte de bas niveau. Et de l'autre côté, on a la iraïla, qui est un cadeau que Kadosh Baruch Hu donne aux tzadikim. Une fois qu'ils ont fini la chaîne. C'est-à-dire que les tzadikim doivent démarrer comme tout le monde. D'accord? Ils doivent faire les devoirs comme tout le monde. Ils doivent démarrer par la iratata, par la crainte d'en bas. D'accord? Ça veut dire d'abord se travailler pour craindre à Kadosh Baruch Hu, sentir cet élément de distance, faire Torah et Mitzvot, et après, peut-être qu'ils auront un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Ce cadeau d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est qu'ils auront la Iraïla. La Iraïla, c'est quoi comme cadeau? C'est que la personne se sent tellement annulée à Kadosh Baruch Hu qu'il ne sent plus du tout son existence. Il ne sent plus du tout son existence. D'accord? Azak.
Le sidekick du lundi, hein.
Oui. Ma sœur Béla.
Ah. Nickel.
Donc, il est tellement... On a expliqué que c'est quoi Iraïla. Iraïla, c'est que la personne est tellement annulée à Kadosh Baruch Hu, qu'elle n'a plus d'existence, propre. D'accord? Ça, c'était Iraïla. Mais on ne s'est pas arrêté sur ça la semaine dernière. On s'est arrêté sur la Ahava, sur l'amour. On a dit que de la même manière qu'il y avait de même manière qu'il y avait deux niveaux de crainte, il y avait la crainte, d'accord, donc iratata iraïla, la crainte d'en bas, la crainte d'en haut. De la même manière, il y a deux niveaux d'amour. Deux niveaux d'amour par rapport à Kadosh Baruch Hu. On a commencé par la plus difficile, par celle qui est inaccessible. C'est quoi la celle qui est inaccessible? C'est la ira, c'est la ahava ila. On a appelé ça, pour être précis, on a dit ahava rabba. D'accord, ahava rabba. Ahava Rabba, c'est quoi cette Ahava Rabba? C'est une personne qui aime Akadosh Baruch Hu, mais de manière générale, on a expliqué que l'amour est toujours accompagné d'une soif. Quand on aime quelqu'un, ça veut dire qu'on a envie de s'approcher de lui. Il y a une envie, il y a une soif, il y a une soif comme le feu. On a expliqué que Ahava Rabba, donc on commence par le plus dur, mais celui qui est inaccessible, c'est le niveau des tzadikim, qui se sentent tellement proches d'Akadosh Baruch Hu, qu'ils ne sentent même plus la soif. Ils sont comme un oiseau qui est dans les airs, qui vole. D'accord? Ça, c'est Ahava Rabba. Nous, on a Ahavat Olam. C'est quoi Ahavat Olam? Ahavat Olam, on a expliqué, ça veut dire qu'on va utiliser, la force d'aimer qu'on a en nous. On est tous avec une force d'aimer. Cette force d'aimer se trouve dans notre âme animale. On a une force d'aimer. On verra que même les gens qui n'ont pas cette force d'aimer, la Torah a des solutions pour eux. Mais on est tous avec une force d'aimer. Alors on peut aimer des bêtises, on peut aimer des bonnes choses. On a une force d'aimer. Et quelle va être cette Ahava? Le rôle de cette Ahava va être de transformer cet amour, de le déplacer, au lieu qu'il soit utilisé pour des bêtises, de l'utiliser pour des bonnes choses. Alors, Yaakov, je sais que tu es amateur de ces définitions. Dans le Zohar, on nous parle de deux types d'amour. On nous parle de l'amour comme l'eau et l'amour comme le feu. C'est quoi la différence entre l'eau et le feu? Tout le monde avec nous? C'est quoi la différence entre l'eau et le feu?
L'eau et le feu.
D'accord. C'est que l'eau en général...
C'est différent.
D'accord. L'eau, c'est froid. D'accord.
Quoi, le point commun, l'eau, je comprends, mais...
C'est quoi la différence entre l'eau et le feu? D'accord. Hein, Yaakov, qu'est-ce qu'il dit Yaakov?
Je comprends si on dit que c'est quoi le point commun.
Alors, l'eau...
C'est un ridouche.
La différence qu'il y a entre l'eau et le feu, c'est que l'eau, de manière générale, ça a toujours tendance à être froid, d'accord, par nature, et même si on la chauffe, mais elle finira toujours par devenir froide, alors que le feu par nature, il est chaud. De la même manière, le Zohar dit, il dit qu'on a deux catégories de Ahava. On a deux catégories d'amour. On a l'amour comme l'eau et l'amour comme le feu. Ça veut dire quoi l'amour comme l'eau? Rappelez-vous le concept qu'on a expliqué. On a expliqué un concept, on a dit que chez un homme simple comme nous, qui n'est pas sadique, qu'est-ce que ça veut dire Ahavat Hashem? En quoi ça s'exprime Ahavat Hashem? Ahavat Hashem, ça veut dire arrêter d'aimer les bêtises de ce monde. Très bien. Mais là, on a deux catégories. On a le Ahava Kamaim, l'amour comme l'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'arrête d'aimer les bêtises de ce monde, certes, mais c'est pas pour autant que je vais me mettre à aimer Akadosh Baruch Hu. Ça, en vérité, c'est le niveau qu'on atteint tous. On a tous envie, pas des fois, de faire des Averot. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se retenir. On va se retenir de faire des Averot. Et on peut pas dire qu'on va arriver, que c'est pas parce qu'on s'est retenu de faire des Averot, alors d'un autre côté, on va arriver à un grand amour avec Dieu. Non. Ça sera ni l'un ni l'autre. On va arriver à une situation, d'accord, de que ni j'aime Dieu, entre guillemets, et ni j'aime les bêtises. Je suis dans une situation de mitzvat anashim melumada. Ça veut dire que je me laisse couler et j'essaye de faire ma tefillah tous les jours, j'essaye de faire ce que je peux tous les jours, mais j'ai ni j'aime les bêtises et ni j'aime la Torah. Ça c'est la Ahava Kamaï. De l'autre côté, Ahava Kaesh, l'amour comme le feu, c'est quoi? C'est quand la personne arrive à réfléchir et à prendre conscience qu'il a du chemin et qu'il est très loin d'Akadosh Baruch. Ça c'est ce qu'on appelle le Ahava Kaesh. Donc Ahava Kamaim, Ahava Kaesh. Donc encore une fois, on a deux niveaux dans l'amour. On a l'amour d'en bas et l'amour d'en haut. Je commence par l'amour d'en haut, puisqu'il est inaccessible de toutes les façons. L'amour d'en haut, c'est quoi? L'amour d'en haut, ça veut dire aimer Akadosh Baruch Hu de manière à ce qu'il n'y ait plus du tout de soif. Il n'y a que Dieu dans ma vie. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus du tout ma personnalité. Ça, c'est les tzadikim qui ont ce niveau-là. Nous, à notre niveau, on n'a que l'amour d'en bas. Dans l'amour d'en bas, on peut avoir deux catégories. Première catégorie d'amour d'en bas, c'est quoi? C'est j'arrête d'aimer les bêtises, mais j'ai pas encore réussi à aimer Dieu. Mais bon, j'arrête de faire des bêtises parce que je comprends que c'est pas bien ce que je fais. Mais c'est pas pour autant que je peux dire vraiment que j'aime Akadosh Baruch Hu. Ça c'est l'amour comme l'eau. L'eau c'est synonyme de froideur, ça refroidit. Donc ça veut dire que j'ai refroidi mes bêtises. Ça c'est Ahava Kamaim. De l'autre côté on a Ahava Kaesh. Ahava Kaesh c'est quoi? Ahava Kaesh ça veut dire que c'est l'amour comme le feu. Parce que j'ai une soif, j'ai envie de m'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est un premier point que je voulais dire par rapport à la semaine dernière. Deuxième point que je voulais dire par rapport à la semaine dernière. Il a expliqué que c'est quoi le concept de Ahavat Hashem dans la Torah. Pourquoi c'est très important de démarrer par la Yirat Hashem, par la crainte de Dieu? Parce qu'il a expliqué qu'en vérité, une fois qu'on est passé par la case Yirat Hashem, qu'on a compris que le plus important c'est de craindre Dieu et que Dieu c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, après Ahavat Hashem va être très facile. Pourquoi? Parce que de soi-même on va comprendre qu'au lieu d'aimer des bêtises, il faut que je m'ouvre ça, il faut que je bouge ça pour me mettre à aimer des bonnes choses. C'est-à-dire, je ne vais rien changer chez moi. C'est automatique, petit à petit, c'est un processus qui va se passer dans mon cerveau, qui va dire, il faut que j'arrête d'aimer les bêtises, il faut que je me mette à aimer des bonnes choses. Alors, il y a un mamar du Rabbi Rachab, le Rabbi Rachab, c'est deux rabbis de Lubavitch en arrière, qui cite l'ordre, d'accord, l'ordre des plaisirs qu'on peut avoir dans ce monde. On a expliqué que la personne comprend qu'un plaisir matériel, c'est nul, autant chercher un plaisir spirituel. C'est le cerveau humain qui comprend ça. Alors, il cite, d'accord, une liste de plaisirs. Et on va aller en crescendo. D'accord?
Ouais.
Alors, pas décrescendo, crescendo.
La classe.
Alors,
Dimitris.
Le premier, c'est quoi? Le premier, c'est le plaisir matériel. Qu'est-ce que j'appelle le plaisir matériel? Par exemple, le plaisir de la nourriture, d'accord? Les plaisirs charnels et tout ce que vous voulez. Ça veut dire, c'est les plaisirs qui ont un rapport avec le corps. Très souvent, dans la Torah, on appelle ces plaisirs des plaisirs animaux. Puisqu'un animal éprouve les mêmes plaisirs. D'accord? Un animal, d'accord? On voit comment... Tu peux voir comment il s'arrache un morceau de viande, d'accord? Tu le vois, il est là en train de... C'est le feu! C'est le feu, c'est...
Je sais pas. C'est pas sûr que ce soit un plaisir.
Ouais.
Ce soit un besoin,
c'est un plaisir.
qu'un besoin soit couplé à un plaisir, c'est pas dans tous les cas.
Pas dans tous les cas.
Quand il peut avoir besoin de manger, il n'a aucun plaisir.
Mais on voit chez les animaux qu'il y a des plaisirs, d'accord ? Par exemple, surtout quand il va avoir des relations entre animaux, etc. On voit qu'il y a, il y a cette notion de plaisir. Il y a une notion de, il y a une notion de plaisir, d'accord ? Bon, quoi qu'il en soit, d'accord ? En tout cas, dans la Kabbalah et dans la Chassidut, on appelle ça un plaisir animal. D'accord. Parce que nous, en le faisant, on est comme un animal. Ça, c'est un premier niveau. Ensuite, on monte un peu plus haut. Explique le Rabbi Rachab, c'est le plaisir d'entendre une belle voix.
Ah, j'ai vu ça, hein, ce truc.
Je crois pas, pas dans le Tania. Si on a expliqué dans le contrat Soumayan.
Oui.
Le deuxième plaisir, deuxième catégorie de plaisir, c'est quoi, hein? C'est le plaisir d'une belle voix. Le plaisir d'une belle voix. Entendre une belle voix. Ça, c'est un plaisir qui n'est déjà plus matériel. C'est un plaisir qui passe déjà dans le spirituel. Pourquoi? Pourquoi ça me fait plaisir quand j'entends une belle voix? Ça ne va pas faire d'impact sur, mon matériel, mon physique. Mon physique ne va pas changer. C'est pas comme un plaisir matériel. Un plaisir matériel, d'accord, le plaisir va passer par mon physique. Il va passer par mes membres, il va passer par ma bouche, il va passer par mon physique. Le plaisir de la voix, on appelle ça déjà un plaisir spirituel. D'accord ? Pourquoi spirituel ? Parce que le plaisir ne passe pas par le physique, d'accord ? Mais c'est un plaisir, on appelle... Alors attention, on va aller beaucoup plus loin dans le spirituel. Mais c'est un début. C'est un début, d'accord ? Ça veut dire que le plaisir n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est rentré dans mon oreille. C'est pas qu'il y a quelque chose qui est rentré dans mon oreille, ça m'a fait plaisir. Non.
Pourquoi ?
C'est que le plaisir, c'est qu'il y a, y a quelque chose qui est rentré dans mon oreille et que mon cerveau a analysé la musique, d'accord ? Et en analysant la musique, il a dit « Ah, c'est une belle musique !» Donc il a pris plaisir.
Oui, non,
d'accord ? Voilà, donc on est bien d'accord.
Et alors ?
L'odeur, par contre, l'odeur, c'est entre les deux.
La différence avec le reste, c'est la même chose ?
Non, la différence avec la nourriture, c'est que la nourriture, c'est un plaisir qui est entièrement physique. C'est un plaisir qui, ça veut dire que c'est mon corps qui a envie de kiffer, d'accord ? C'est un plaisir qui a entièrement en rapport avec mes membres. C'est mon membre physique qui va kiffer. C'est un plaisir qui a démarré par la physique et finit par la physique. La voix, j'ai pas dit que c'est entièrement spirituel, mais c'est déjà plus fin. C'est déjà plus fin. On voit clairement comment...
Le plaisir charnel, il dépasse par la tête. Hein.
Oui, bien sûr qu'il passe par la tête. Mais il démarre par le corps, d'accord ? Et c'est le corps qui a un plaisir.
Je sais pas par où ça démarre vraiment. Hein. Ça se discute. Hein.
Bon,
le Laura. Non, parce que tout c'est là-haut. Hein.
Ouais.
C'est sûr que tout doit être analysé dans la tête. Si j'ai décidé qu'un plat n'est pas bon, même si je veux le manger, d'accord ? Ben, je veux pas kiffer, c'est normal.
C'est la partie basse.
C'est sûr, ça. Mais ce que je veux dire par ici, c'est que ça passe par les membres du corps. C'est un plaisir qui est comme, c'est un plaisir animal.
Reptilien.
Ça, ça, c'est pas expliqué à Chassidoute. En tout cas, j'ai pas, bon, d'accord. Donc, ça c'est, ça dépend d'où on sait. On a un plaisir matériel qui a un rapport avec les membres physiques du corps. D'accord, ça veut dire que j'ai mangé, j'ai eu un plaisir matériel, un plaisir charnel. Et de l'autre côté, on a un plaisir qui est un peu plus spirituel, qui est le plaisir de la voix. J'entends une belle voix, d'accord ? C'est un plaisir qui est plus spirituel.
On va dire un plaisir qui passe par le concret, l'autre qui est un peu plus abstrait.
Oui, plus abstrait, c'est... Il n'est pas physique, si vous voulez, vous pouvez appeler ça métaphysique, voilà. C'est pas physique, d'accord ? C'est pas un plaisir qui est physique. On ne peut pas dire que le plaisir d'une musique, c'est un plaisir qui est physique. C'est un plaisir qui est issu d'une analyse. Ça, c'est un deuxième niveau. Troisième niveau, c'est quoi,
hein ? On est des câbles.
D'accord ? C'est logique, vous allez réfléchir, vous allez voir, c'est très logique.
Plaisir intellectuel.
C'est très logique, le plaisir de la musique, c'est pour ça que pas tout le monde peut avoir le plaisir de la musique. On voit que les gens qui ont le plaisir de la musique en général, c'est les gens qui sont plus fins, c'est les gens qui sont pas tellement grossiers. Une personne qui est grossière, qui est très grossière, ne peut pas comprendre ce que c'est le plaisir de la musique. Il peut comprendre ce que c'est le plaisir de danser, de sauter sur de la musique, boum boum boum, d'accord ? Mais le plaisir d'une belle musique, quelqu'un de grossier ne peut pas comprendre. D'accord ? Très bien. Ça, c'est le deuxième catégorie de plaisir. Troisième catégorie de plaisir, c'est quoi ? Explique. Non, encore avant. C'est le plaisir des midotes. Le plaisir des sentiments. Par exemple, quelqu'un qui a une nature qui a envie d'aimer, quand il aime quelqu'un, ça lui procure un plaisir. Quelqu'un qui a une nature qui a envie de faire du chesed, d'accord ? Qui a envie de faire du chesed, c'est sa nature. Quand il va déployer sa mida, ça lui procure un plaisir. C'est un tas à nous. D'un autre côté, on a des gens qui ont une nature d'être plutôt rigoureux, et quand ils arrivent des situations dans la vie dans lesquelles ils déploient cette mida-là, donc dans leur famille, dans leurs amis, etc., ça leur procure un plaisir. Ah, j'ai fait quelque chose. Alors ça, c'est un plaisir qui est encore plus fin. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est un plaisir qui a un rapport avec un membre. C'est un plaisir qui est déjà plus spirituel. Ça, c'est troisième catégorie de plaisir. Donc là, on est monté un peu plus haut. Quatrième, donc ça, c'est un plaisir qui a complètement démarré d'une analyse. Quatrième catégorie de plaisir, Yaakov, c'est quoi ? C'est le plaisir du cerveau. C'est quoi le plaisir du cerveau ? Le plaisir du cerveau, ça veut dire la force de la compréhension. Quand on comprend quelque chose, comme la Gemara a dit, qu'une fois il y avait Rav Kahana, quand il a découvert une nouvelle Tosafta, il a découvert une nouvelle Mishnah, c'est écrit que Tsahavu Panav. Son visage a jauni, son visage s'est éclairci. C'est pas seulement éclairci, son visage s'est illuminé. Pourquoi ? Ça, on dit que c'est le plaisir, d'accord ? Le plaisir le plus haut qui peut exister. Le plaisir le plus haut qui peut exister chez un homme, c'est quoi ? C'est le plaisir de la compréhension, le plaisir de la logique. D'accord ? J'ai entendu quand j'étais une fois en Israël, j'ai entendu une fois de quelqu'un qui est passé par la Shoah, qui n'est pas religieux. Et j'ai entendu la chose suivante. Il m'a dit, je comprends pas comment le peuple du livre, c'est quelqu'un de bon qui aimait beaucoup réfléchir. Il a dit, je comprends pas comment nous qui sommes le peuple du livre, on peut passer notre plaisir à voir des gens frapper sur un ballon. Il n'avait pas compris. Il ne peut pas comprendre. Pour lui, c'est un plaisir animal. Je ne peux pas comprendre, il m'a dit, comme ça, une fois quand je faisais Mustaïm. Il m'a dit, je ne peux pas comprendre comment les gens peuvent avoir un plaisir de voir des gens taper sur un ballon. Ça ne lui rentre pas dans sa tête. Et pour moi, je comprends qu'on a un plaisir de comprendre quelque chose, de trouver quelque chose. Ça, c'est plus spirituel. Donc ça, c'est le plaisir spirituel le plus haut qui existe. Après, bien entendu, il y a des niveaux. Après, plus on avance, et plus on va découvrir des finesses, et plus le plaisir sera énorme. D'accord ? Quatre catégories. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici là de Morazaken ? Morazaken nous dit ici qu'en vérité, le moteur qui a derrière ces quatre, le moteur qui a derrière ces quatre amours est le même. C'est le même. D'accord ? Le même moteur qu'il y a depuis qu'on est enfant. C'est le même moteur, c'est la force d'aimer. Le koar ahava, la force d'aimer. C'est pour ça que nous dit là de Morazaken, quelqu'un peut, même si à 20 ans par exemple, il a été attiré que par les plaisirs matériels, il aime bien manger, etc. Si il va se travailler sur soi, et on va lui expliquer qu'il faut craindre un Kadosh Baruch Hu, il va comprendre que c'est des bêtises, automatiquement, petit à petit, il va monter, et automatiquement, l'amour qu'il va chercher va être plus spirituel. Après, ça ira encore plus loin. Parce qu'on peut avoir des gens après, que même si quand ils ont découvert le Limud HaTorah, ils ont découvert l'étude de la Torah, ils ont commencé à apprendre le Chumash, par exemple, quand ils ont eu un plaisir, après ils disent, on veut plus. On a envie de plus. Pourquoi il a envie de plus ? Parce que plus on avance, et plus notre amour, on a envie de le développer dans quelque chose de plus fin et plus fin et plus fin. Et si ce n'est pas le cas, c'est que notre Yitzharara nous a bien eu. D'accord ? Ah, bien sûr, dans notre vie, on a des hauts et des bas. Bon. Alors là, je me suis arrêté avec Gam, Mish, En, Midat, Ava. Okay. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est important d'expliquer cette introduction. The Gam, Mish, En, Midat, Ava, Shibenafsho. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'était valable, d'accord, chez une personne qui a des sentiments, qui a une force d'aimer. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui... c'est un kiffeur. D'accord ? C'est quelqu'un qui est un kiffeur.
Un bon chul.
D'accord ? Mais c'est quoi le truc ? On dit, bon, au lieu de kiffer des bêtises, tu vas kiffer des bonnes choses. D'accord ? C'est assez facile. Maintenant, on va nous parler de Morazaken. Maintenant, on va parler d'une personne qui n'est pas du tout kiffeur. Ça, c'est, il y a un autre mamar, j'ai de Morazaken, qui explique sur le mamar, il y a un mamar, qui explique sur le premier pasouk de la paracha Vaikra. Il dit comme ça, il dit, Adam, qui akriv mikem korban lachem, mina behema, mina bakar ou mina tson, t'akrivou et korban trem. Il dit, un homme qui offrira de parmi vous, ouais, tout de suite en français, même en français ça passe pas, et en hébreu non plus ça passe pas, korban lachem, un sacrifice pour Dieu, mina behema, de l'animal, il devra l'amener. Minabakar ou Minatson, du gros bétail et du menu bétail, takrivou et korban trem, vous approcherez votre korban. Encore une fois, ça marche pas. Tu as commencé à dire un homme qui voudra amener, donc tu parles à la troisième personne. D'accord ? Tu parles à une personne qui n'est pas présente. Je ne sais pas comment on dit en français. À la troisième personne, il n'est pas les nochar.
C'est à une tierce personne.
Tierce personne. D'accord ? Donc on parle à une tierce personne. Et tu finis le verset en disant, vous amènerez votre korban. Donc là, tu parles à une personne qui est en face de toi. D'accord ? Tu passes une petite. Bon. Donc le Morazaken, il a un long mamar dans l'Ikuté Torah, qu'elle explique la chose suivante. Il dit comme ça. Il dit, Adam qui écrive. Spirituellement, comment on explique ce passage ? Il y a beaucoup de psukim comme ça que dans le pshat, il y a des failles qui nous montrent qu'en vérité, il faut aller chercher plus loin. Le Zohar, il explique comme ça ce passage. Adam qui écrive. Un homme, lorsqu'il veut offrir un sacrifice, ça veut dire un homme qui dit, j'ai envie de m'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il doit savoir ? Mikem. Ne va pas chercher midi à 14h, le sacrifice se trouve chez toi. Ah oui, chez moi, comment je fais ? Où chez moi ? Mina Bema. Il faut aller chercher dans le côté Bema, ça veut dire dans la Nefesh Abemi, dans l'âme animale. Continue le pasouk. Mina Bakar ou Mina Tson. On a plusieurs types d'âme animale. on a le bakar, on a le gros bétail, on a le menu bétail. Explique Admor Hazaken, c'est quoi la différence entre le gros bétail et le menu bétail? Le gros bétail, en général, est toujours féroce, toujours costaud, il veut frapper, il veut avancer, il est toujours très fort. Menu bétail, quand je sais pas, quand vous prenez l'autoroute, on remarque toujours les moutons, etc. Ils sont là peinards, on a l'impression qu'ils sont là depuis que le monde a été créé, et qu'ils peuvent être là jusqu'à le monde va être détruit. Tant que tu les bouges pas, tu les bouscules pas, ils bougeront pas. Ça c'est son. Son. D'accord. D'ailleurs, des fois on dit, je sais pas si c'est en hébreu, on dit en tout cas endormi comme un mouton. Arrête d'être endormi comme un mouton. Mouton, c'est synonyme de quelque chose qui dort. Qu'est-ce qu'il dit Admor Hazaken? Il dit, il faut savoir qu'on a deux types, deux catégories de Yetzer Hara. On a le Yetzer Hara qui va attaquer la personne par la chaleur, comme le bakar, le gros bétail. Ce Yetzer Hara, il dit, viens, je te chauffe, on va faire une avéra. Ce Yetzer Hara, il faut le travailler. Comment on le travaille? On a expliqué. Progressivement. Alors, on va donner des techniques dans le chapitre 44 qu'on étudiera à la rentrée, Bezrat Hashem. Mais on va donner des techniques, d'accord? On va donner des techniques, oui.
Avant l'été?
C'est maintenant qu'il peut donner.
Je te donnerai en privé, si tu veux.
Non,
c'est pas moi. Toujours, il veut.
Nous, on va pas à la plage. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Mina Bakar! C'est quoi le Bakar? Le Bakar, c'est le gros bétail. Il dit que il faut travailler ton gros bétail. Il faut comprendre qu'il faut arrêter d'aimer les bêtises. Il faut transformer cet amour-là vers le bien, vers le positif. D'accord. D'ailleurs, on dit que leur vie précédente, il aimait beaucoup les gens qui étaient énergiques, les gens qui étaient dynamiques. Même si ces gens-là, en général, quand ils sont jeunes, ils font beaucoup de bêtises. Pourquoi? Parce qu'il disait que quelqu'un comme ça, quand on arrive à canaliser son énergie, il fait des merveilles. Ça, c'est Mina Bakar. De l'autre côté, on a Mina Tson. C'est quoi Tson? Celui qui son Yetzer Hara ne l'attaque pas par les plaisirs. Il n'attaque pas en disant, viens, je te propose un bon kiff. Il attaque par la froideur. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Reste dormir le matin, reste au lit. Enfin, c'est un exemple. Qu'est-ce que tu te prends la tête? D'accord. Minatson! Ça, dit l'Admor Hazaken, il faut savoir que ce Yetzer Hara, même s'il nous a l'air plus facile, en vérité, il est beaucoup plus dur que l'autre.
Vicieux.
Beaucoup plus vicieux. Parce que une fois qu'une personne a déjà... Il est déjà attiré par quelque chose. Même en psychologie, on dit comme ça. Quand quelqu'un a le goût, il n'a pas perdu le goût, il a le goût. Après, c'est beaucoup plus facile de lui expliquer que c'est pas ça ce qu'il faut aimer, mais c'est ça ce qu'il faut aimer. Mais quand une personne n'a pas de goût du tout, il n'aime rien. Il n'est pas intéressé par rien du tout. Ça ne l'intéresse pas. Psychologiquement, c'est beaucoup plus difficile à ramener le goût à cette personne et lui expliquer qu'il y a des choses qu'on peut kiffer dans la vie, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que nous dit l'Admor Hazaken. Il dit, ma technique, ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est quoi ma technique de Avat Hashem? C'est que j'ai dit que quand tu vas passer par la case Irat Hashem, par la case de la crainte de Dieu, que tu vas te soumettre, tu vas comprendre qu'il y a une seule vérité dans le monde. Automatiquement, tu vas comprendre qu'il faut arrêter d'aimer tes bêtises, il faut aimer autre chose. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il y aura un switch de mon amour qui va passer vers le bien. Et si je suis pas quelqu'un qui aime? Si je suis quelqu'un depuis que je suis né, je suis froid. J'ai pas de sentiments, ni dans ma vie sentimentale, j'allais dire, ni dans ma famille, ni dans mes amis, j'ai pas de sentiments. Il y a des gens comme ça, froids.
Les gens Ashkenaz. Qui sont froids.
D'accord. Par exemple, il faut se méfier des Ashkenaz. Hein.
Ouais, ils sont froids extérieurs, mais c'est des
il faut se
tempéraments rebelles de l'intérieur.
Plutôt une vague.
Une petite vague.
Des fois,
une attaque, hein.
Très souvent, un Ashkenaz, il peut être plus chaud intérieurement qu'un Sfarad.
Ouais, un Sfarad, il est chaud tout le temps, lui.
Un Sfarad, il est chaud extérieurement.
Mais lui, il a des perditions, il est tout le temps chaud.
Non, des fois, le Sfarad, des fois, il est chaud extérieurement, mais dès qu'on calme un peu, bon, il se calme, il est calme, c'est fini. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il est calme.
Comment?
Il reste vicieux, le Shkun, ouais.
Jusqu'au
dernier souffle.
Et je reconnais que, malheureusement...
Malheureusement, c'est une métier.
Malheureusement, j'ai appris deux. J'ai vu faire.
Vous savez ce qu'on dit chez les Shkaz, on dit il faut se méfier d'un animal blessé.
Ah
oui, là-bas, ils s'appartiennent, c'est leur nature, hein, c'est...
Vous bon. Monsieur Haussmann connaît un élément commun.
Ah. On veut pas de nom, hein.
On veut pas de nom, on continue.
Surtout c'est pour dire que c'est un bacard blessé, hein.
Non, un son blessé, hein. Non.
Même une personne qui n'a pas du tout... Ah, je vois que ça marche, les guibettes, hein.
Ouais, c'est un kiff dangereux. Tu vois pourquoi, mais je mange.
Pour occuper l'âme animale, comme ça.
Pendant qu'elle écoute.
Voilà. Donc, il dit comme ça, il dit... Même une personne qui n'a pas l'amour qui est développé du tout, c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout. Il ne sait pas ce que c'est aimer. Ni il aime sa famille, ni il aime sa femme. Pourquoi il s'est marié? Parce que techniquement, c'est plus facile quand on se marie, c'est tout. Il a pas d'amour, il sait pas ce que c'est.
On a deux parts.
Techniquement, c'est plus facile quand on est à deux. Yachol, l'al-iv nafsho, ça c'est les enfants. Yachol, l'al-iv nafsho, qui riche fait esh, veshal evet aza. Même une personne comme ça, la Torah a pensé à lui. La Torah, qu'est-ce qu'il nous dit de Morazaken? Bela'a va ole à shamaima, aliede itvolenut aniskiret leel, ke moshe itver le kamal. Quand la personne va réfléchir à ce qu'on a expliqué avant, à quoi il va réfléchir? Il va réfléchir au fait que Dieu, il est très très grand. Qu'en vérité Dieu est très très grand et que comment Akadosh Baruch Hu s'occupe de nous et comment Dieu est présent dans chacun de nos pas. Qu'est-ce qu'il dit l'Admor HaZaken? Maintenant on va expliquer dans le chapitre 44 comment c'est possible. Parce que c'est ça notre problème en vérité. Notre problème c'est qu'aujourd'hui, dans la société qu'on a aujourd'hui, on n'aime pas. On aime personne, on s'aime qu'à soi-même. Ça c'est le chapitre 44. Après, on va être un chapitre très chargé. Je préfère vous prévenir.
Voilà rentrer.
Voilà rentrer. Il faut des dans ce chapitre. D'accord. Mais nous dit l'Admor HaZaken, donc il a ouvert la parenthèse, il dit sache que même une personne qui ne sait pas ce que c'est aimer, s'il suit ma technique, sa technique c'est quoi? De commencer par la Yirat Hashem et de sentir la distance qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu, automatiquement, obligatoirement, le sentiment viendra. Pourquoi et comment? On verra chapitre 44. Mais déjà, il nous dit maintenant, sache, t'ouvres une parenthèse, si tu n'arriveras pas au chapitre 44 avant le mois d'août, sache que de toutes les façons, ça marche. Tu développes la Yirat Hashem avant de sortir de ta maison. Quand tu es en vacances, tu dis Yirat Hashem, la crainte de Dieu. Dieu est tellement grand, c'est pas parce que je suis dans telle ville qu'il n'est pas là. On développe la Yirat Hashem en quelques secondes, obligatoirement ça marche. Bon. Alors on a dit qu'on allait parler aujourd'hui des balais teshuva. On dit que normalement, dans la normale des choses, la Torah nous dit toujours qu'il faut d'abord démarrer par la Yirat Hashem, et ensuite on a la Ahavat Hashem. D'abord on commence par craindre Dieu, et ensuite seulement on peut l'aimer. On a expliqué pourquoi. On a dit que quand on va craindre Dieu, qu'on va sentir la distance, ça c'est le passe-partout qui va permettre qu'on a mis de côté le Yetzer Hara. Une fois qu'on a mis de côté le Yetzirah, automatiquement on se met à aimer les bonnes choses, les choses qu'il faut aimer. Très bien. Maintenant, nous dit l'Admor HaZaken, des fois c'est le contraire. Il y a des gens, et d'ailleurs on va parler des balais teshuva, il y a des gens qu'on a vu qu'ils n'ont pas démarré leur teshuva par la crainte de Dieu, pas parce qu'ils flippaient, qu'ils allaient être punis. Ils ont démarré par amour. Alors, est-ce que ça veut dire que leur teshuva n'était pas bonne? Est-ce que ça veut dire que l'amour... teshuva n'était pas bonne. Non, ils ont fait teshuva, ils sont revenus. Mais est-ce que ça veut dire que l'amour qu'ils ont déployé pendant leur teshuva, la soif qu'ils avaient, est-ce que ça veut dire que cette soif-là était une soif qui était en vérité fausse? Quand c'était une soif qui était en vérité... Ça veut dire que c'est pas une vraie soif. C'était... Comment on dit quelque chose qu'on s'imagine? C'était...
L'imaginaire.
Dans l'imaginaire.
Ça commence avec un F, mais le mot il m'échappe.
Fictive.
Non, pardon? Fictive. Voilà. Fictif. Je l'ai dit le mot F. J'ai dit le mot F, il a eu tous les verbes qui sont passés dans sa tête qui peuvent s'apparenter. Il a dit hop, fictif.
J'ai bien aimé Fantasmagorie quand même.
Ouais, mais c'était un peu forcé. Hein, ouais. Fantasmagorie. Il a vraiment poussé l'affaire.
Cordelette.
C'est des consonnes alors. Hein.
Iné prinata vaso, allez mais c'est en prenant les mots. Veine prinata vaso, peamim shekodem et leira. Cet amour qu'on a dit. Ça veut dire quoi cet amour? C'est pas un amour que, comme les tzadikim. L'amour que, au lieu d'aimer des mauvaises choses, j'aime des bonnes choses. Peamim des fois. Shekodem et leira, il arrive des fois que cet amour va venir avant la crainte. Kefi prinat adat amolida kanoda. Ça veut dire quoi? Il nous dit ici Kefi prinat adat amolida kanoda. Comme le niveau du da'at, d'accord, donc de la connaissance, de l'attachement à Molida qui fait naître. Là aussi, encore une fois, on a un mamar du Tzemar Tzedek qui explique qu'est-ce que ça veut dire. Hein. Il dit que de manière générale, chez un homme, on a deux catégories de sentiments. On a les sentiments qui sont innés, c'est-à-dire depuis qu'on est petit, dès un enfant, hein, au Hachem, j'ai mes enfants, je vois que depuis petit, depuis les premiers jours déjà, on voit la différence entre les deux enfants. Depuis petit, tout de suite, on voit celui-là, il a un caractère comme ça, celui-là, il a un caractère comme ça. C'est les natures. Nature, c'est... Et en général, la nature, on ne peut pas l'enlever. On peut la couvrir, on peut la cacher, mais on ne peut pas l'enlever. Ça, c'est une première catégorie de sentiments. C'est des sentiments qui sont innés, des sentiments qu'on ne travaille pas. Deuxième catégorie de sentiments, c'est quoi? C'est les sentiments qu'on travaille. C'est les sentiments qu'on va faire naître par notre cerveau. Par exemple, on a des gens qui naissent, c'est des gens, des tzadikim, d'accord? Des gens, des enfants, vous les voyez, d'accord? Quand ils sont enfants, ils sont innocents. D'accord. Et vous les voyez à 20 ans, vous retrouvez un, vous retrouvez un gars, et il fait les 400 coups, on ne sait pas d'où il est sorti. Alors que quand il était enfant, c'était quelqu'un de, qui avait l'air de, d'innocent. Alors vous allez me dire qu'il cachait son jeu, mais peut-être qu'il ne cachait pas son jeu. Peut-être qu'en vérité, ce qui s'est passé ici, c'est qu'il a eu un sentiment qui a été créé. C'est pas un sentiment qui est inné. Alors, je vais donner une définition.
C'est la différence entre l'inné et l'acquis.
L'inné et l'acquis, exactement. L'inné et l'acquis.
Oui, mais c'est ça. L'inné, c'est de l'acquis héréditaire. Est-ce que c'est de l'acquis héréditaire, tu
comprends ? L'acquis héréditaire.
C'est de l'acquis héréditaire.
Oui, bon, c'est l'inné. Ça change quoi ? Ça change. Il va tuer son père pour dire c'est pas de toi que je voulais.
Il
va
faire Iliade.
Il dit comme ça, il dit... Donc il y a deux catégories de sentiments. Il y a les sentiments qui sont créés, donc les sentiments qui sont acquis, et il y a les sentiments qui sont innés. Dans le Tania, vous avez remarqué qu'on parle très rarement, d'accord, on parle très rarement des sentiments innés. Toujours on dit qu'il faut acquérir, c'est un travail, il faut se travailler. Bien sûr, on dit attention, on dit qu'une fois que tu vas travailler, c'est là que tu vas découvrir qu'en vérité tu avais les forces en toi, peut-être. Mais toujours on parle d'un travail d'acquisition. Nous dit l'Admor HaZaken, rappelez-vous ce qu'on a expliqué. On doit passer par Chorma, Bina, Da. Je dois réfléchir à quelque chose, d'accord ? Je dois m'attacher à la chose de manière à ce que tellement je me suis attaché à la chose que ça va créer un sentiment. Le problème qu'on a avec Da'at, c'est que le même Da'at, la même réflexion, peut créer un sentiment négatif et peut créer un sentiment positif. Alors, négatif et positif, c'est pas ce que vous imaginez. Je pense que le meilleur exemple qu'on peut avoir pour négatif et positif, c'est crainte et amour. On peut craindre et aimer quelqu'un en même temps. On peut avoir la même réflexion. D'accord. Suite à la même réflexion, on peut en même temps craindre une personne, donc c'est le problème de la distance, et en même temps l'aimer. Nous dit l'Admor HaZaken, bien que normalement, dans la majorité des cas, il faut démarrer par la crainte, parce que la crainte est toujours beaucoup plus facile. Je donne un exemple pour montrer pourquoi la crainte c'est beaucoup plus facile. Quand on rentre dans une pièce, imaginez-vous que vous rentrez dans une pièce qui est obscure. C'est quoi, vous êtes avec nous ? Imaginez-vous que vous rentrez dans une pièce qui est obscure. D'accord ? Est-ce que vous rentrez dans une pièce qui est obscure ? Le premier sentiment qui nous vient, c'est un sentiment de crainte. Ça veut dire que la crainte, pour déployer un sentiment de crainte, on n'a pas besoin de connaître la chose. Même si on a un point d'interrogation sur quelque chose, on peut avoir la crainte. Alors que l'amour...
En plus, ce que vous ne connaissez pas,
c'est... Bien sûr. Alors que l'amour, c'est le contraire.
D'accord ?
Alors que l'amour, c'est le contraire. L'amour, c'est je m'approche de la chose, donc plus je m'approche, et plus je l'aime. Normalement, dans la normale des choses, on doit d'abord démarrer... D'accord ? Par l'appréhension, Azak. D'abord, je dois démarrer par l'appréhension, ça veut dire je dois démarrer par l'écart. Et après, petit à petit, je m'approche d'Akadosh Baroukou. Mais si c'est le contraire, directement, je viens, je dis, il est où Dieu ? Allez hop, c'est mon copain. Ça ne marchera pas. Il faut toujours démarrer par la crainte, après arriver à l'amour. Mais il y a des gens chez qui ça ne marche pas comme ça. Et une fois, une histoire s'est passée avec le rabbi. Une fois, il y a des gens qui sont venus voir le rabbi, des parents qui sont venus voir le rabbi avec leur fils. Leur fils avait un problème. Il avait déjà à l'âge de 7 ans. Et il n'arrivait pas à apprendre le alphabet. Rien à faire. Apparemment, il n'était pas bête dans la vie, il n'avait pas l'air d'être bête. D'accord ? Par exemple, on lui a enseigné le calcul, il n'était pas bête, il comprenait. Mais le Aleph bête, rien à faire, il n'arrivait pas à comprendre. Ça rentrait pas, ça passait pas. Donc ils sont venus voir le rabbi, ils ont demandé un conseil au rabbi. Un conseil, mis à part la bracha, aussi un conseil. Le rabbi a répondu la chose suivante. Il a dit, cet enfant est particulièrement intelligent, est très intelligent. Pour cet enfant, quand on lui apprend quelque chose comme le Aleph bête, ça lui paraît trop simple. Ça lui paraît trop simple, donc ça ne l'intéresse pas. Donc puis ça ne l'intéresse pas, il commence à lève, bête, guillemets, ouais, j'ai compris, c'est naze ton truc, il arrête. Écoutez bien le conseil que Ravi l'a donné. Ravi a dit, comment ça lui apprendre la Gemara ? Gemara, à 7 ans. Et vous allez voir, de lui-même, après, il va comprendre l'handicap, qu'il faut apprendre les lettres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a pris la Gemara pendant quelques mois, après il a dit, bon, j'aimerais apprendre tout ça la Gemara, il est passé au lève. Et des enfants, je sais qui c'est comme ça, c'est très rare. Je sais pas, dans une école, comment ça marche. On saute les étapes des fois ?
Non, je sais pas.
On passe au CE1 avant d'aller au CP ?
C'est un cas rare.
Bon, c'est un cas rare. C'est d'accord, c'est des cas qui n'arrivent jamais. C'est des cas qui arrivent très rarement. C'est des cas qui arrivent. C'est la même chose pour le Baal Teshuvah. Normalement, dans la normale des choses, on doit démarrer par la crainte. On doit démarrer obligatoirement par la crainte. Mais nous dit l'Admor HaZaken, si une personne... S'il y a des cas, et on a des exemples dans la Torah dans lesquels s'est passé le contraire, qu'une personne a démarré d'abord par l'amour, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait teshuva par crainte. C'est pas, il a dit, bon, avec toute la vérote que j'ai fait, voilà ce qui va se passer en haut. Il faut bien que je retourne. Non. Il n'a pas fait teshuva pour ça. Il a fait teshuva parce qu'il s'est dit, Dieu est tellement beau, il faut que je m'approche d'Akadosh Baroukou. Le Rav Stenzat raconte une histoire. Il a ramené beaucoup de gens à la teshuva de Rav Stenzat. il raconte une histoire qui s'est passée personnellement avec lui. Il dit qu'une fois, il a rencontré dans un des kibboutzim dans lequel il allait donner un cours, il a rencontré un ami qu'il n'avait pas vu depuis 20 ans. Et cet ami-là, c'était quelqu'un qui a fait teshuvah par le Rav Stanzas, par les cours du Rav Stanzas, il a fait teshuvah 20 ans plus tôt. Alors le Rav Stanzas, c'était un bon ami. Donc c'était une fois dans un Fabringen, comme ça, ils sont assis pour dire les chayim, pour dire comment ça va. Et le Rav Stanzas a posé la question, à cet ami-là, d'accord ? Le Rav Stanzas a posé une question à cet ancien ami. Il lui a dit, dis-moi la vérité, qu'est-ce qui t'a poussé à faire tes choix ? C'est pas quelqu'un de bête, c'est quelqu'un de très intelligent. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire tes choix ? Pourquoi t'as fait tes choix ? Rav Stanzas s'est dit que ça c'est des questions qu'il pose qu'aux gens à qui il est vraiment très proche. Je sais pas, bon, nous on pose des questions un peu partout à tout le monde, mais lui il dit que ces questions-là, je les pose qu'aux gens avec qui je suis très proche et qu'au moment Adratson, comme le moment des Fabringen, quand on est assis, on a dit les Chaïm, c'est un moment que les cœurs sont ouverts. D'accord ? Il lui a répondu comme ça. Écoutez bien ce qu'il a répondu. Il lui a répondu, d'accord ? Il lui a dit, il y a un verset, regardez bien ce qui c'est très fort. Même le Rav Stanzas dit qu'il est resté bête. Il a dit, ce qui m'a toujours dérangé, c'est qu'il y a un verset dans Job, Eyov, qui dit la chose suivante. Un verset qui me tracassait pendant des années. Un verset qui dit, les maasé yadera tirsof. Que Dieu, il dit, qu'il aspire. Dieu dit qu'il aspire aux créations de ses mains. Ça veut dire qu'il aspire à nous. Il aspire à nous. Et il dit, comme ça il raconte au Rav Stanzas. Il dit, je comprends pas. Si, j'arrêtais pas de réfléchir. Si Akadosh Baruch Hu aspire vers nous, et que nous, normalement, on devrait avoir un sentiment d'amour vers Dieu, comment ça se fait ? Comment c'est possible que je n'ai pas ce sentiment d'amour vers Dieu ? C'est un sentiment qui l'a dérangé pendant des années dans un kibbutz. Hein. Un kibbutz chiloni sur chiloni. Qui l'a dérangé pendant des années, jusqu'à ce qu'à la fin, il s'est dit, il faut que je m'approche de Dieu. Il faut que je découvre qu'est-ce que c'est Dieu. Il faut que je découvre comment on peut faire pour aimer Dieu. C'est quelqu'un qui a fait une teshuva me'ahava. Le Rav Stanzas, il dit que il est resté bête devant cette personne. Une personne qui n'a jamais étudié la Torah, qui ne sait pas ce que c'est aimer Akadosh Baruch Hu, qui n'a pas démarré par la crainte. Alors, attention, quand je dis la crainte, c'est pas seulement la crainte de la punition. La crainte, c'est parce que peut-être quelqu'un m'a expliqué que dans la vie, que si on ne suit pas le chemin de la Torah, alors la vie familiale n'ira pas, etc. D'accord ? Ça aussi une forme de crainte. Là, on a des gens, c'est assez rare, des gens qui ont démarré que par amour. Ils ont une soif tout d'un coup comme ça. Une soif, il a envie de monter vers Akadosh. Il a envie de découvrir ce que c'est Akadosh Baruch Hu, de découvrir la divinité. Maintenant, le gars, ni il fait Shabbat, il mange du porc Kippour, mais soif de divinité. On voit que ça marche. Mais c'est, comme dit Alain Morazaken, il dit, c'est quelque chose, comme il va le dire tout de suite, c'est quelque chose qui est donné par Akadosh Baruch Hu.
Mais j'allais te dire, c'est une tarot ça qu'il a là.
Oui. Mais attends, c'est pas simple.
Le mec, il a côté de la plaque et qui va lui prendre le verset de Yob, ça le dérange. Pas autre chose. C'est un blocage cérébral que Dieu lui a fait.
On ne peut pas passer simplement à la Kadita Rotadilela. Il faut aller un peu plus loin. Pourquoi je dis qu'on ne peut pas s'arrêter à la Kadita Rotadilela ? Parce que si pour cette personne-là, c'est un plaisir comme un autre. D'accord ? Il dit, bon, j'ai envie d'aller à la recherche du spirituel. Il ne voudra pas s'annuler pour arriver à ce plaisir-là. S'il n'est pas passé par la case Ira, dans laquelle il a compris qu'il faut s'annuler d'abord. Il dit, bon, moi je veux bien découvrir ce que c'est Dieu, mais c'est pas pour ça que je vais lâcher ma vie. Là, peut-être que le Rav Stanzas l'explique, apparemment il a connu quelqu'un comme ça, il dit qu'apparemment il y a une personne qui a un sentiment de divinité tellement, de s'approcher de la divinité tellement fort, qu'il est prêt à tout lâcher pour ça. Alors qu'il ne sait pas ce que c'est la divinité, alors qu'il n'a pas peur de Dieu, il n'a jamais développé ce sentiment. Il a une soif de la divinité, il veut s'approcher, il veut comprendre ce qu'il y a au-dessus. Une soif. Cette soif-là on l'a eu chez Avraham Avinu aussi. Avraham Avinu, on dit qu'il est revenu chez Akadosh Baruch Hu, pas une teshuva, mais ça veut dire qu'il a découvert un Kadosh Baruch Hu, mais à Ava. Il avait une soif de la divinité. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit Maïmonide ? Maïmonide dit que c'est Me'atmo. On ne considère pas que c'est un éveil d'an. On dit que c'est Me'atmo. C'est par rapport à la nature d'Avraham Avinu. Par rapport à sa nature, il a compris qu'il y avait quelque chose au-dessus. Il y en a qui disent ça à 3 ans, il y en a qui disent ça à 20 ans, il y en a qui disent ça à 40 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais il a compris qu'il y avait quelque chose au-dessus, il aspirait d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a au-dessus. C'est exactement le même sentiment qu'a eu cette personne-là. Ça nous dit l'Admor HaZaken, bien que dans la normale des choses, il faut démarrer par la Yirat Hashem. Ça veut dire quelqu'un, par exemple, qui dit, j'ai envie de sentir le spirituel. Première chose qu'on lui dit, on dit, monsieur, il faut commencer à accomplir les mitzvot. Il faut commencer à vous travailler. Il faut commencer à faire le Shabbat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut démarrer par la crainte. Il faut te casser. Et après, petit à petit, tu commenceras à sentir le spirituel. Mais tu ne vas pas sentir le spirituel comme ça. Il y a des gens chez qui c'est le contraire. Il y a des gens qui ont démarré, ils avaient une soif. Nous dit l'Admor HaZaken, c'est possible. Velachen, Efshar l'Erasha ou Baal Averot, Shiyase Teshuva Me'ahava Anolda Belibo Bezochot Hashem Elokav. Il est possible qu'une personne va faire Teshuva. Donc une Teshuva par amour. Il n'y a aucun élément de crainte. Il n'a pas peur de rien, aucun élément de crainte, par un amour qui s'est éveillé dans son cœur, Bezorro et Hachem Elokav, en se souvenant d'Hachem son Dieu. Ça veut dire en comprenant qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout ça, et en essayant de le rechercher. Tu peux faire Teshuvah que pour ça. On peut avoir un rachat et Baal Averot. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas fait Teshuvah, que normalement, avec toute la Averot qu'il a fait, il ne devrait pas avoir de soif vers le spirituel. Il y a un problème, c'est pas normal. Normalement, on a toujours appris qu'une personne qui a fait de la Averot, il n'arrive pas à avoir de soif vers le spirituel. Pourtant, nous dit l'Admor HaZaken, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Comme vous avez dit, c'est un Edrat. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Mais attention, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu qui est accompagné d'un travail d'en bas. Que la personne est à la recherche de l'amour. Ça veut dire à la limite, tu viens, tu lui dis, tu sais, attention, tu sais, si tu ne fais pas les mitzvot, tu vas recevoir une punition, il s'en fiche la punition. Il dit, je m'en fiche, ça ne me dérange pas. Ça. Je préfère le kiff d'en bas. Qu'est-ce qu'il a attiré? C'est la Avat Hashem, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Du tout, la Neshama, elle est là, elle est en pleine puissance.
Qu'est-ce qu'il t'étonne alors? Le gars, il a une Neshama, il fait de la Averot.
Ce qui m'étonne, c'est qu'il est passé par la case amour avant la case crainte. Non, regarde, il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Quand je parle de crainte, c'est pas seulement la crainte du bâton. Ça peut être la crainte que j'ai fait tellement de bêtises dans ma vie, qu'est-ce qui va devenir de moi?
Tu sais qu'il n'y a même pas au courant, toi.
Deux secondes, qu'est-ce qui va devenir de moi? Où je vais? Qu'est-ce que je fais? C'est une forme de crainte, ça, déjà.
D'accord, mais
c'est déjà une forme de crainte.
Pas au courant, toi.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait Teshuvah?
Alors, parce que c'est un Neshama, elle bouge.
Mais pourquoi? Quel sentiment il a quand il fait Teshuvah?
L'année Shama,
d'accord.
On peut plus.
Mais ma question, réponds à ma question. Quel sentiment il a quand il fait Teshuvah?
Il chauffe quoi?
Il chauffe quoi?
Il sait parfois, il a envie.
Il a envie de quoi?
Il a
envie de quoi?
De spiritualité.
Ah, bah ça c'est Teshuvah, merde.
Hein? Mais c'est
apparemment,
tout café au chemin.
Apparemment, voilà, ce que je dis, apparemment il y a des gens qui ont déjà pris le train.
T'as pas besoin de réveil d'en haut, ça bouge tout seul.
Alors,
ça bouge tout seul.
Tout d'un coup comme ça.
Mais attends, l'année Shama.
Pourquoi une personne se réveille à 24 ans et pas à 23 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien qui s'est passé. Personne ne lui a parlé. Il n'y a aucun rabbin qui lui a parlé. Pas seulement ça. Un rabbin lui a parlé il y a 10 ans, il lui a craché sur la figure. Il a dit, laissez-moi tranquille, c'est du pipo ce que vous racontez. Tout d'un coup, 10 ans plus tard, tu as envie spirituelle. Où tu vas? Ça me dit, mollo, où tu vas là? C'est quoi spirituel? T'as pris... T'es shooté ou quoi?
Alors, faut arrêter, il dit n'importe quoi.
À un moment donné, l'Neshama, il faut qu'elle sorte.
Et comme ça, cette Neshama tout d'un coup. Ça, tout d'un coup, elle a envie de sortir.
Comme chacun, comme toi. Qu'est-ce qui fait que toi, à 39 de fièvre, t'es malade, l'autre à 42, là. Chacun, il est différent.
Mais à 39 de fièvre, on a tous la fièvre.
Il y a les événements différents, les événements dans la vie, raison. Qui font que ça peut casser quelque chose.
Alors ça, dans ce cas-là, c'est plus à avoir. Ça m'ira déjà.
Ça redescend souvent aussi vite que c'est venu, c'est ça le...
Oui. Ça, tu vois, si c'est une teshuva par rapport... Si c'est une teshuva par rapport à un... Décrescendo. Si c'est une teshuva par rapport à un événement qui s'est passé, d'accord? Un événement qui s'est passé, qui t'a bousculé, c'est déjà plus une teshuva mais à avoir.
Non. Et non, ça peut être les deux.
D'accord. Ça veut dire quoi c'est les... D'accord, ça peut être les deux, t'as raison. Mais quel sentiment la personne sent? Réponds à ma question. Toi apparemment, d'accord. Non, mais je parle de toi, la manière comment tu comprends.
Ah, d'accord. Toi, on te connaît déjà.
La manière comment tu comprends, c'est que quand une personne fait teshuva, d'accord, le premier sentiment qu'il a, le sentiment moteur qui le pousse à faire teshuva, c'est l'amour. Il est à la recherche de spiritualité. D'accord. Je sais pas chez tout le monde, c'est comme ça.
C'est pas moi, les
gens. Il explique qu'en général même, d'accord, chez la majorité des gens, c'est pas comme ça.
Ah bon.
Chez la majorité des gens, ils arrivent à une conclusion qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas bon.
Donc c'est intellectuel.
Non, c'est basé sur la Yira. Après, il dit, bon, bah alors il faut que je découvre spirituel, il a la soif, le gars il a envie de tout découvrir. Mais ça démarre d'abord par un sentiment de Yira. Il dit, c'est pas bon ce que je fais. Là, on parle des gens, d'accord, c'est pas pour ça qu'ils font teshuvah. Ils font teshuvah parce qu'ils ont une soif. Ils ont une soif, ils ont envie de découvrir la Kadosh Baruch Hu. On va amener un exemple tout de suite.
Alors,
regardez. Umikol makom, aira gamken klulavam imeila.
Ah. Eh oui.
D'accord.
Et il a raison, le rabbin qui est ici, voilà.
Alors, attendez. Mais il a pas dit ce qu'il a
dit. Oui, il a même pas son, mais c'est ce qu'il a voulu dire, notre tzaddik.
Il n'a pas parlé comme Admor HaZaken.
Ah non, mais voilà.
Il a pas dit, j'attendais que tu dises le point d'Admor HaZaken.
Ben, il aurait pu.
C'est pas loin.
Là, on m'aurait dit que j'avais lu avant.
D'accord, ah, c'est quand même. Voilà, dans tous les côtés débloqués. Aïr Agam, Ken, Klou, Labam, Meila, Rak, Shei, Yifrinat, Katnout, Ve'elem. Dit l'Admor HaZaken, même si c'est une personne qui a fait Teshuvah que par amour. Donc il a jamais eu d'élément de crainte. Il y a quand même un élément de crainte. C'est quoi l'élément de crainte? On avait expliqué vaguement, d'accord, pour t'en rappeler. On avait expliqué vaguement ce concept-là au début du chapitre 41. On a dit que quand on aime quelqu'un, d'accord, quand on aime très fort quelqu'un, c'est toujours accompagné d'une petite peur, d'une petite crainte. C'est quoi la petite crainte? C'est la crainte qu'un jour ça s'arrête. Donc, même si des fois j'aime quelqu'un très très fort et j'ai envie de faire certaines choses que je ne ferai pas. Pourquoi? Parce que cet amour est accompagné d'une crainte, que je me dis, j'ai peur que cet amour va s'arrêter. Donc vous comprenez, c'est pas une crainte, on peut pas dire que c'est vraiment une crainte, c'est une crainte qui est autour de l'amour. D'accord? Comme il dit ici. Danu iratret limrod bochas veshalom. C'est valable physiquement, ça veut dire que j'ai peur, c'est valable matériellement, j'ai peur de... Je veux pas trop m'avancer vers quelqu'un parce que j'ai peur qu'il va me jeter, donc j'ai peur de me séparer. C'est valable aussi avec Akadosh Baruch Hu. La personne, même s'il démarque avec l'amour, d'accord, mais il dit, attends, Dieu, avec l'amour, l'amour, mais il va me jeter, Dieu. Il va me jeter, il ne va pas laisser passer comme ça. Parce que là, on parle d'une personne qui a compris qu'il y a quelque chose au-dessus de lui. Pas quelqu'un qui dit, c'est un kiff. Il a compris quelque chose au-dessus de lui. Là, cette personne-là, petit à petit, progressivement, il va comprendre que s'il veut avancer, il faut commencer à faire les mitzvot.
Exact.
D'accord. Ça, on le voit. C'est une histoire que j'ai entendue cette année quand j'étais au Kinnous HaShlouchim. Il y a un rav qui a parlé, le rav Wittgenstein il s'appelle. Bon, enfin, c'est un nom ashkenaz, d'accord. Le rav Eliezer Wittgenstein, il a raconté, il a dit que quand il était en Israël, il a eu une relation avec le professeur Eliezer Steinman. D'accord. Ne pas confondre avec le rav, c'est aucun rapport, pas de la famille, rien du tout. C'est un grand professeur, enfin il a écrit beaucoup de livres, etc. À l'époque, au début du sionisme, il était très connu en Israël. Et à un certain moment, ce professeur-là, il voulait faire une thèse sur la chassidut. Des thèses, d'accord ? Donc il voulait faire une thèse sur la chassidut. Donc, il a envoyé une demande pour lui, il a envoyé une demande à tous les tzadikim, il n'y croyait pas, hein, il faisait ni kippour ni rien. Mais il a envoyé une demande à tous les représentants du chassidisme, donc il a envoyé aussi une lettre au rabbi, dans laquelle il demandait est-ce qu'il pouvait avoir la documentation sur la chassidoute, d'accord ? Donc sur la chassidoute de chacun, pour pouvoir faire sa thèse. Bon, alors il s'est fait jeter par beaucoup de chassidoutes, imaginez, d'accord ? Parce que bon, le gars on le connaissait, c'était un gars, vous savez, c'est les débuts du sionisme, c'est les gens qui, pas simplement, c'est pas qu'ils croient pas en Dieu par kiff, c'est des gens, il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment apicoros, ça veut dire qu'ils savaient ce que c'était de religieux, ils ont déjà été religieux dans leur vie, mais ils ont tout lâché. Donc il s'est fait jeter par beaucoup de monde. Et une des personnes qui ne l'a pas jeté, c'était le rabbi. On pouvait s'y attendre.
Ouais.
Le rabbi, il a envoyé ce rav Glirkenstein. Il lui a dit, va le voir. Et tu vas lui amener, donc il lui a donné, donc il y avait déjà beaucoup de livres de Chassidut Chabad qui étaient partis, qui étaient imprimés. Tu vas lui amener tous ces livres-là. D'accord ? Et s'il te propose d'étudier avec toi, tu acceptes. Mais attention, ne lui parle jamais des mitzvot. Jamais. Tu étudies comme si c'était un texte de science. D'accord ? Je ne lui parle jamais de mitzvot. Bon, le Rav Kirchner a accepté. Il a raconté, j'ai entendu de sa propre bouche. Il a raconté, il a dit qu'il est venu, ça s'est passé exactement comme ça. Le professeur lui a dit, est-ce que ça vous dérangerait si on apprend un petit peu ensemble pour que je découvre ? Parce que bon, c'était nouveau pour lui. Il a dit, pas de problème, avec plaisir. Et ils ont commencé à étudier, d'accord ? Et chaque fois, il y avait des concepts, il y avait des mamaris, mais vous voyez comment dans la chassidoute, très facilement, il y a un enseignement dans lequel on dit il faut s'améliorer dans Torah et Mitzvot. Et lui, le Rav Glirkenstein, toujours, il zappait. Il parlait pas. Ce professeur-là, par la suite, il a raconté qu'il attendait au tournant, le Rav Glirkenstein. Il attendait au tournant, il a dit j'attends qu'il va me parler de ses Mitzvot, et là je le rentre dedans, je l'esquinte. C'est des gens très intelligents. Et il a fait comme ça. Ça a duré 4 ans. 4 ans. Pendant 4 ans, ils ont étudié tous les jours ou quelques fois par semaine, d'accord, sans qu'une seule fois on parle de mitzvot. On étudiait ça comme un texte.
Il a dû être frustré.
Le Rav Glirkenstein, il a raconté, il a dit que ça le tuait, parce que pour lui, c'est comme si on étudie la Torah comme une science. C'était une souffrance pour lui. Mais il a dit, le rabbi m'a demandé, je ne pose pas de questions. 4 ans plus tard, d'accord, le professeur-là, il a demandé, il lui a dit, est-ce que vous pouvez m'amener un sidour, s'il vous plaît ? J'aimerais prier. Et il a commencé cette teshuva comme ça. Il a commencé à se teshuva comme ça, d'accord, il a fait une teshuva spectaculaire. Alors c'était à la fin de...
Non.
Il a fait une teshuva spectaculaire, d'accord, il était déjà à la fin de ses jours, mais il est revenu entièrement à la Torah. Il a amené beaucoup d'amis avec lui à la Torah. Ça, c'est une personne qui a du Marabad. Non.
On
cherche pas à rendre les gens Chabad chez nous.
Non.
Si par eux-mêmes, ils veulent devenir Chabad, ils ont compris la vérité, au prix corde.
C'est pas une question inutile, hein. Surtout pour la réponse. La question, c'est pas inutile pour la réponse. Hein.
Je crois qu'avec 3 ans de record de Betrabad, on n'est pas... comment on appelle ça prosélyte.
On est quand même pro. Hein.
On est pro pour l'élite.
Ouais.
Alors.
Si ça joue au final, je vais à côté. J'adore.
Si ça joue Joséphine, c'est ça.
Il y a un carabre. Il a le fin du vin, là. Donc, par quoi il a démarré, cette personne-là? Cette personne-là a démarré par une soif de spirituel. Il a raconté pareil, la même chose. Soif de spirituel. Et c'est seulement après qu'il s'est dit, bon, ce Dieu-là, si je veux m'attacher à lui, il faut bien que je commence à prier. Il faut que je commence à m'annuler à lui. Mais ça a démarré par une ahava. Et c'est valable. Mais attention, comme il dit Sien Morazaken, cette Ahava, peut-être pas au début, mais elle finira toujours par s'accompagner d'une ira, d'une crainte, la crainte de se détacher. Ve'ahava ibeit galut libo umocho, ar zeu derech mikre ve'orat sha'a, ba'ashgacha pratit me'et asher. Mais nous dit Sien Morazaken, ça, cette manière de faire les choses, ça veut dire de commencer par la, de démarrer par la I, de démarrer par la Ahavat Hashem, et c'est la Ahavat Hashem qui va accompagner par la suite la Yirat Hashem. Je veux commencer par aimer Dieu, et après, je me dis, bon, et si je veux l'aimer comme il faut que je commence à le craindre, il faut que je commence à faire les mitzvot. Ça, c'est quelque chose qui vient seulement derech mikre ve'oracha. Ça arrive très rarement, d'accord? Et c'est ve'oracha, ça veut dire que c'est au cas par cas. C'est Dieu qui décide au cas par cas. Comme l'exemple que je donnais avec le Rabbi. Le Rabbi, il a dit, il faut qu'il apprenne la Gemara avant la Lefbet. Bien que c'est pas normal. Normalement, c'est le contraire. Comment il dit Maïmonide, d'accord? Maïmonide, il dit qu'on doit démarrer de zéro. C'est-à-dire qu'un enfant, au début, quand il dit j'ai envie de tout comprendre, il dit non, tu vas pas tout comprendre. D'abord, tu vas prendre la Lefbet, après, tu vas prendre les bases, et après, petit à petit, tu vas tout comprendre. C'est comme ça que, quand on approche une science, c'est comme ça qu'on a fait. D'abord, on doit s'annuler devant la science. Na se venishma. D'abord, on doit s'annuler, et après seulement, on peut comprendre. Mais dans certains cas, c'est le contraire. On démarre par les grosses lumières, et après on se dit, bon, en vérité je piche que dalle, il faudrait peut-être que j'apprenne les bases. C'est ça ce qui se passe, c'est les gens qui font teshuvah me'ahava. Ils font teshuvah me'ahava, vous avez des gens par exemple, ils font une teshuvah spectaculaire, ils ont envie de s'approcher de Dieu, ils vont vous prendre une Bible, ils vont vous trouver des lumières dans la Bible. Je sais pas si vous ont trouvé des lumières. Après, à un certain moment, ils comprennent qu'ils n'ont rien compris, donc ils disent, bon, on va aller voir les pros, d'accord? Il faut se calmer. On va chez les religieux. D'accord? Chez les religieux qui veulent bien nous enseigner.
Qui sont donc Rabad.
Donc, on va aller, aujourd'hui, il n'y a pas que les Rabad au Hachem.
Mais ils étaient précurseurs.
Oui. Mais le Rabbi avait dit au début, même si aujourd'hui on se moque de moi, au début, dans les premières années, c'est vrai qu'on se moquait. Et qu'est-ce que tu vas faire avec des Réchaïm, etc. Il dit, on finira par suivre. C'est ce qui se passait.
Ah oui, ça c'est sûr. Avec du retard, mais ils ont suivi, hein.
Bon, au Hachem, ça va nous approcher encore plus de Mashiach. Donc, Arzeu derech mikre voracha, beashgacha pratit me'et Hashem et tzorecha. D'accord? Cette manière de travailler, de démarrer par la crainte, par l'amour de Dieu, c'est, au cas par cas, c'est la Kadosh Baruch Hu qui décide. Beashgacha pratit me'et Hashem et tzorecha, que ma'ase de Rabbi Elazar ben Dourdeya, comme l'histoire qu'on a racontée il y a quelques semaines, d'accord? La fameuse histoire de Rabbi Elazar ben Dourdeya. Rabbi Elazar ben Dourdeya, comme on a raconté, ce qui s'est passé, la Gemara raconte, elle dit qu'il n'a pas laissé, une femme prostituée dans le monde, une femme prostituée qu'il connaissait, qu'il n'a pas fait la vera avec elle. Toutes les femmes qu'il savait, il a fait la vera avec elle. Et une fois, Rabbi Elazar ben Dourdeya, Rabbi. D'accord? Ah bon, on va voir après ce qu'il s'appelait Rabbi ou Rav ou Rêve, bon, c'est une autre question. Donc, Rabbi Elazar ben Dourdeya, donc c'était un grand rachat. C'était un grand. On va voir le Harizal, ce qui est du dessus et tout. Il y a beaucoup de choses à dire. Après on verra ce qu'il a. Au Hachem, là j'ai un livre pour le résumer. Il y a beaucoup de choses à dire. La semaine prochaine, il y aura beaucoup de choses à dire. Ça, c'est un livre qui a été écrit que sur les 3 chapitres 41, 42, 43. Voilà. Je peux vous dire qu'il y a des choses à dire sur ces 3 chapitres. Au Hachem, on a fait beaucoup de cours aussi.
Ouais.
Donc Il était donc une fois, on raconte, qu'il a appris qu'il y avait une, une femme qu'il fallait traverser la mer. Donc la Gemara, elle raconte, il a traversé sept fleuves et sept mers, enfin c'est une manière de dire qu'il est parti très très loin. D'accord ? Et il est arrivé, et ça coûtait très cher, d'accord ? Il a payé ce qu'il fallait. Et à la fin, à un certain moment, quand il était pendant l'acte, cette femme-là, d'accord ? Elle a eu un, comment on appelle ça ? Efir. Donc elle a lâché un gaz, d'accord ? Elle a lâché un gaz. Et quand elle a dit ça, parce qu'il est venu dans la tête, mais en tout cas elle a dit à Rabbi Elazar ben Dourdeya, elle a dit de la même manière que mon gaz ne reviendra jamais, bah c'est fini, il est parti, il s'est envolé maintenant, de la même manière, Elazar ben Dourdeya ne pourra jamais faire teshuva. Elle a piqué. D'accord ? Et l'histoire raconte que lui, il a tout lâché, il est parti. Donc il est parti dans des il est parti entre les montagnes, il a demandé aux montagnes et aux collines de l'aider. Et la montagne et la colline, qu'est-ce qu'elle a répondu ? Il a répondu que avant qu'on pense à toi, il faut qu'on pense à nous d'abord. C'est écrit qu'il y a Arim Temutena, d'accord ? Que les montagnes vont être détruites. Bon, il faut comprendre ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est écrit. Donc il dit on prie pour nous. Et comme ça, il est parti. Qui a et Arim dans ce qu'on le pasouk, c'est la même. Voilà. Qui a Arim Yemushu Vagvot Temutena.
Voilà.
Pasouk dans Yeshaya.
C'est allusion faite ou à vote et Imaot.
Oui, exactement. Ça c'est bon. Là je dis la Gemara pour l'instant.
Arim, c'est la Gemara. C'est à vote.
C'est sûr, ça, il est parti demander la Arim. Ah, c'est après, c'est les Mefarchim qui expliquent. Qu'est-ce qu'il voulait dire
hein?
Ah, j'ai vu ça dans Marsha. Marsha, il explique ça. Il explique les Avot, les Imaot, les Jvati, Moshe Rabbeinu, il amène tout un bio. Bon, donc ensuite il est parti, il a demandé au soleil, il a demandé à la lune, etc. Et chacun, ils l'ont tous envoyé dans les roses. D'accord? Là, à ce moment-là, il a compris, donc il a demandé aussi aux astres, et bon, il a demandé à tout le monde, personne ne l'a aidé. Là, à ce moment-là, il a dit, ben dans ce cas-là, il a dit, bon, dans ce cas-là, j'ai compris, ça dépend que de moi. Qu'est-ce qu'on raconte ? On dit que il a posé sa tête entre Birkav, donc il a posé sa tête entre ses genoux, il s'est mis à pleurer jusqu'à ce que sa neshama est sortie. Et là, il y a une voix qui est sortie du ciel, d'accord, qui a dit, la Gemara a dit, Reb, il y a Resh et Vav, d'accord, Rav, ouais, c'est pas écrit Rabbi. Donc il dit Rav Elazar ben Dourdeya ou Rabbi, mais on verra après que Rabbi Uzanassi l'a appelé Rabbi. Rabbi Elazar ben Dourdeya est invité à la vie du Olam Haba. Et là, à ce moment-là, Rabbi Uzanassi l'a pleuré. Il a dit, il y a des gens qui acquièrent leur Olam Haba en plusieurs années, en parlant de lui-même. Enfin, on connaît pas de personne qui a autant travaillé sur les mitzvot qu'en Rabbi Uzanassi dans sa génération. Et je connais Olamo Bechahara. Il y a une autre personne qui acquiert son monde en Bechahara en un seul instant. Alors le Harizal pose la question suivante. Alors Isaïe dit, je comprends pas. Que tu me dises qu'il a fait teshuva et qu'on a accepté cette teshuva. Bon, à la limite, je peux comprendre. Pourquoi je peux comprendre ? Parce que l'Admor Hazaken explique dans Guéret à teshuva, il dit que même si nous, on croit que la teshuva, ça prend des années, une teshuva, ça peut se faire en un instant. La preuve est de la Gemara. La Gemara a dit que même si c'est quelqu'un qui a un grand rachat, et qui a dit, la Gemara dans Kiddushin, elle dit, je me marie avec une femme, Almenat Chani Tzadik.
Oui.
D'accord ? À condition que je sois un tzadik, qu'est-ce que dit la Gemara ? Mes coups d'échette. Elle est mes coups d'échette. Pourquoi ? Mais c'est un rachat. Peut-être au moment où il a dit, qu'est-ce qu'il a pensé ? Il a eu un irur tshuva, comme ça se dit, Shema irur tshuva à la Bilibo. Peut-être qu'il a eu une pensée de tshuva, il est devenu tzadik. De là, il explique longuement l'Admor Hazaken dans la Guéret HaTshuva, qu'on Bezrat Hashem, on y arrivera. 12 chapitres très intéressants, dans lesquels il explique que, contrairement à ce que les gens pensent, la tshuva ne se fait pas en des dizaines d'années. Le travail qu'on fait de tshuva par la suite, c'est que pour nettoyer, pour qu'on soit chéri aux yeux de Dieu, comme avant, comme le Corban. Mais la tshuva, c'est pas ça. La teshuva peut se faire en une fraction de seconde. Donc on peut comprendre que cette personne-là, donc Eliezer ben, donc monsieur Eliezer ben Dourdeya, a été invité à la vie du Olam Haba. Il a reçu le Olam Haba. Pourquoi il a reçu le Olam Haba ? Parce qu'il a fait une teshuva en un instant, bon, on a accepté cette teshuva, elle était bonne, il a eu du premier coup, pas de problème. Mais pourquoi on l'appelle Rabbi ? Est-ce qu'il a une smicha ? Est-ce qu'il a une smicha ? Alors, vous allez me répondre, j'essaie de la répondre à vous, de dire oui, parce qu'on a appris un enseignement de lui. Mais le Harizal dit non, c'est pas suffisant.
Ah.
Pourquoi c'est pas suffisant ? Parce que chez nous, on a Rav, on a Rabbi, on a beaucoup de termes. D'accord ?
Rabban.
Rabbi, Rabban. Là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Rabbi Udanassi, il a presque fait comprendre que Rabbi Elazar ben Dourdeya va arriver au même Gan Eden que lui. Et qu'il est Rabbi comme lui. Il y a un problème. L'Arizal, il dit, c'est pas normal, il manque un élément ici. Regardez ce qu'il répond le Harizal. L'Arizal, il répond comme ça. Hein. Il dit qu'en vérité, Elazar ben Dourdeya était un Gilgul de Yohanan Kohen Gadol. C'était un Gilgul, d'accord, comment on dit un Gilgul,
une réincarnation
de Yohanan Kohen Gadol. Et alors c'est pas moi, c'est le Harizal.
C'était tout l'inverse.
Alors, Yohanan Kohen Gadol, exactement, c'était pile l'inverse. Yohanan Kohen Gadol, c'était pile l'inverse, parce que lui, il est jusqu'à 80 ans, enfin, pas jusqu'à 80 ans, jusqu'à 100 ans au moins. Parce que,
il a été mes charrettes.
Voilà, parce que jusqu'à au moins 105 ans, au moins. Parce que On peut commencer à apprendre le service qu'à partir de 20 ans. Il y a 5 ans de service, 5 ans pardon, d'apprentissage, d'accord,
formation initiale.
De formation. Donc c'est seulement après qu'on peut devenir Kohen. On peut servir. Donc on peut s'imaginer qu'il n'est pas devenu tout de suite Kohen Gadol. Même s'il était très très bon. Donc il avait au moins 105 ans. Au moins. Peut-être qu'il avait 110, 115, peut-être. En tout cas, il avait au moins 105 ans. Et à 105 ans, il a fauté. Alors l'Arizal il pose la question, il dit, qu'est-ce qui s'est passé avec toute la Torah et Mitzvot qu'a étudié Yohanan Kohen Gadol, toutes les Mitzvot qu'il a fait, c'est fini, ils sont partis à l'eau, ils ne valent plus rien. Après l'Arizal, il dit, Elazar ben Dourdeya prend l'appel Rabbi, parce qu'il avait en soi la Neshama de Yohanan Kohen Gadol, donc pile le contraire comme tu as dit. Hein? Il avait en soi la Neshama de Yohanan Kohen Gadol, et quand il a fait Teshuva, puisqu'il avait déjà les Mitzvot, donc on l'a appelé Rabbi. Parce que Rabbi Elazar ben Dourdeya, même Neshama que Rabbi Yohanan Kohen Gadol, donc c'est pour ça que l'Arizal dit, c'est pour ça qu'on l'appelle Rabbi. Non, ça c'était une parenthèse, puis de l'Arizal. Bon.
On ne discute pas.
Hein, ah oui, l'Arizal, on...
C'est pas pour ouvrir nos discussions. Hein.
C'est pour ça qu'on a que des...
Mais alors peut-être Yaakov avait une autre...
Oui, certainement.
Finalement, on n'a que des petites missions maintenant. C'est des... On est des chameaux de finition, quoi. On est
des chameaux de dixième main. Nous.
C'est le polissage.
En fin de vie.
Le mal polissage.
Le mal polissage, c'est ça.
Donc, tout ça c'était une parenthèse pour dire quoi? Tout ça c'est une parenthèse pour dire que la teshuvah de Rabbi Elazar ben Dourdeya était une teshuvah me'ahava. Teshuvah me'ahava, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il explique encore une fois, ça c'est le Arizal, qu'est-ce qu'il dit? La teshuvah de Rabbi Elazar ben Dourdeya, il n'avait pas peur de la punition. Nulle part on a dit qu'il a peur de la punition.
Si, pourtant,
ah non, écoute bien.
Il était angoissé quand elle lui a dit...
Deux secondes. Elle lui a pas dit, tu vas mourir en haut, c'est fini. Elle a pas dit ça. Elle a dit, tu es quelqu'un qui pourra jamais retourner chez Akadosh Baruch. Ouais. Et nulle part on nous dit qu'il a eu peur de la punition. Oui, pas moi, c'est l'Arizal, hein. L'Arizal dit comme ça. D'accord. Non, je ne bloque pas. Il y a la référence, voilà.
On ne discute pas avec ça.
Qu'est-ce qu'il dit l'Arizal? L'Arizal, il dit qu'il faut savoir que... Comment on appelle ça? J'ai oublié ce que je voulais dire.
Que tu dis que toi,
c'est Béhava. Que Rabbi Elazar ben Dourdeya, sa teshuvah était une teshuvah Me'ahava. C'est-à-dire que le sentiment moteur qui l'a poussé à faire teshuva, c'était un sentiment d'amour. Il avait une soif de spiritualité. Il voulait rattraper le temps perdu. Il voulait retourner chez Akadosh Baruch Hu. C'est une teshuva me'ahava. Mais on voit bien que c'est un cas spécial. C'est un cas qui était tellement spécial que Rabbi Yehuda Hanassi a arrêté l'étude dans le Beit HaMidrash et il a dit, regardez un gars qui a percé. D'accord.
Il a pu prendre un témoin des collines, la lune et le soleil.
Ah oui.
Ouais. C'est pas pris. C'est chaud, hein. Donc la réponse.
Surtout quand on sait qui c'est.
Et lui a eu la réponse.
Il a posé la question, il a eu la réponse.
Ouais, c'est ça.
C'est le nom du nom. Le ciel et la terre ont du nom.
Il a eu une réponse. Mais là, il n'était pas encore...
Ça, c'est une question que je me suis toujours posée. J'ai jamais eu la réponse à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il a posé la question donc au soleil, à la lune, même si on dit qu'il a posé la question au patriarche, comme dit le Marcha.
Mais
comment... D'accord.
Non,
mais même si... Bon, quoi qu'il en soit. Comment il lui a répondu?
Il lui a répondu.
Comment il lui a répondu?
Donc, il a une réponse à la lune.
Ah bon, bien sûr,
ça rase
maintenant.
Nouveau. Ah sérieux.
Il y a quoi? T'as un guildoul du Rabbi Elazar ben
Dourdeya. Des fois quand c'est des trucs...
Il parle sur lui.
Ça va les tuer.
En vérité. C'est vrai, il parle
sur lui. C'est ça, et quand c'est ça, tu me l'as fait compliqué. Tu poses la question à lui, vous savez, quelle brise.
D'accord, tu veux poser
la question à
lui. Demande-lui à quelle heure il va se lever demain.
La réponse.
Mais je t'ai pas dit que j'ai le mérite, tu vas me répondre.
Ah, alors d'où tu sais qu'il parle?
Parce que le soleil, ça parle. Parce que le soleil, c'est une Neshama.
Mais d'où tu sais que, comment Rabbi Elazar ben Dourdeya qui était un rachat, il peut parler avec...
Ah ben je te le dirai pas.
Non, parler, peut-être, mais la réponse, Raouda, la réponse.
Tu regardes trop les...
Non, je sais qu'il a parlé. Ma question c'est comment ça s'est passé, je sais pas, j'ai pas trouvé de réponse.
Je parle comme je te parle.
Les Indiens.
Peut-être quelqu'un a un élément de réponse, moi j'ai jamais trouvé la
réponse. Qui parle, je viens, et la réponse, Raouda,
j'avais déjà eu la réponse.
Toi tu peux lui parler.
La réponse.
J'ai vu dans un commentaire, je vous ferai lire.
Ouais.
Ouais, mais je pense qu'on dit que les astres, ou ceci ou cela parlent, c'est pas vrai. Jamais on peut imaginer une chose pareille. Simplement, il y a ce qu'on appelle des malachim qui représentent.
C'est
des
sûr, ça c'est sûr, oui. D'accord.
Donc il y a des malachim pour la lune, pour le soleil, et c'est eux qui parlent pour. Ça, mais c'est pas eux, c'est pas le soleil ou la lune ou la table qui parlent.
On se dit, il faut savoir que le...
Quand
l'arbre, il te parle, la lune ou le soleil, il te parle, quand même, il te parle.
Peut-être, je ne sais pas, mais c'est pas ça.
Ça passe vraiment.
Voilà. Il y a ce qu'on appelle un assis.
Il y a le...
Franchement, j'ai une preuve, je te parle, mais tu ne réponds pas.
Mais c'est qui le soleil là?
Le Rambam
il dit que le soleil, la lune et tous les astres, d'accord, ils ont une havana, ils ont une neshama, ils ont une compréhension, ouais. Comme les malachim. D'accord. Donc c'est clair qu'avec eux, il y a des malachim. Non, mais je n'ai jamais compris comment il a parlé avec eux. C'est quoi, un malach qui lui a parlé comme ça? Il a dû faire une teshuva énorme, c'est énorme. On ne peut pas comprendre.
On dirait que c'est ton quotidien.
Attendez, je m'excuse. C'est la même chose lorsqu'on dit... Vous prenez des rabbanim aujourd'hui.
C'est la même chose quand on dit que Dieu a proposé la Torah aux Goyim et ils ont refusé. Demande aux Goyim qui on l'a demandé. Fais un sondage, on a demandé à personne.
Ouais,
d'où c'est, d'où on sait. Il s'est adressé au Tsar qui représente les Goyim. Et ce Tsar-là, il existe que par le fait que c'est ce qu'ils font, ce qu'il est. Et donc, lui, il a répondu en fonction de ce qu'ils sont.
Alors, peut-être
c'est pour cela que... Mais maintenant, il est possible qu'il y ait des individus dans cette collectivité qui ne sont pas d'accord avec le Tsar. D'où les Balei Tshuva ou les Guérim. Mais collectivement, ils ont dit non.
Ce que vous voulez dire avec... Alors, ce qu'on peut dire avec ce que vous avez dit, c'est que peut-être que Rabbi Eliezer ben Dodeya, sa Neshama en haut a reçu...
Quoi, c'est ça? Hein? C'est les...
Les représentants. Peut-être que la Neshama de Rabbi Eliezer ben Dodeya a reçu un signal en haut, qui lui a dit... Le ciel lui a dit, écoute, ne demande pas, n'entête pas. Et donc ce signal a été converti en bas chez les Amandandéa, qui a compris qu'il ne faut pas se tourner vers le ciel.
Ouais.
Donc, peut-être qu'les Amandandéa, il n'a pas senti que le ciel lui a dit non. Alors, je ne sais pas, c'est
alors,
intéressant de voir comment c'est passé.
On a entendu parler d'HM, etc. Et ça, tu nous rationalises comme un scientifique.
Ça, moi, j'essaie de comprendre ce que dit l'Agmara, c'est tout. Non, c'est pchat, hein.
Si, aujourd'hui, tu as des rabbins vivants, etc., qui te parlent, des gens connus et reconnus, et qui te disent qu'ils ont parlé avec leur grand-père, leur truc, leur machin. Ils te parlent simplement, pourquoi, si tu les crois eux, et que tu crois que le rabbi, quand il allait sur le tombeau de
non, moi, ce qui m'étonne, c'est que, c'est par rapport au passé de Rabbi Eliezer ben Dodeya. C'est un rachat.
Bien sûr.
Tout d'un coup,
il se met à interroger.
Avec un
ange. Non, je veux dire, d'accord.
C'est compliqué. Avalement, je vais rattacher, un jour on arrivera à la réponse. On raconte une fois avec le... Oui, bon... Un élément de réponse, mais on ne sait pas comment c'est passé. Alors, encore une fois, avec le regard de Chauvert. Le regard de Chauvert, donc, c'est, il a vécu avant la Shoah. Il a écrit un livre qui est très connu dans le monde des Yeshivot, qui s'appelle le livre Safnat Panéar. Et il donnait rarement des... Il a écrit un livre très profond, qui s'appelle Safnat Panéar. Rabbi Yosef Razin. Et il raconte, raconte une histoire sur lui, on dit qu'il donnait très très difficilement la Sniha. La Sniha, c'est le diplôme de Rav aux gens. En général, il s'arrangeait pour bloquer tout le monde. Lui, Rabbi Yosef Razin. Il donnait la Sniha.
Yosef, comme Yosef a dit.
Razin.
Et donc, il a fait son livre.
Pas mal un choix. Il a, donc, comme je disais, donc, il donnait très rarement la Sniha. Parce que c'est quelqu'un qui est très, très rigoureux. Il donnait la Sniha que aux gens vraiment, duquel il était sûr que ça pouvait être des bons rabbinim. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu pour prendre la Sniha. Et qui... Je conclue avec ça. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu pour prendre la smicha, et le... Donc, il connaissait très bien son sujet. Donc, le Rav...
Il n'a pas pu le connaître.
Rogat Chauvert, il n'a pas pu le connaître, il connaissait. Il lui a dit, bon, écoute, je vais te donner ta smicha, mais avant de te donner ta smicha, je veux que tu reviennes, d'accord ? Je veux que tu reviennes dans 3 jours, et que tu m'expliques, quand tu me dises ce que tu penses. Tu réfléchisses bien à un Tosfot qui est telle page, d'accord, telle dans telle matière, telle date.